territoire 100% inclusif, c'est rendre accessible à tous tous les domaines de la vie citoyenne, pour l'école bien entendu. Donc comment pouvons-nous répondre, nous, sur notre territoire, à ces orientations pour améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs dans le parcours de vie d'un enfant, d'un adulte, d'un adolescent, d'un adulte. Donc je vais maintenant vous passer la parole, monsieur Eberton, pour contextualiser un peu ce que je viens de dresser, mais surtout quelles sont ces évolutions marquantes, notamment s'agissant du droit des personnes, pour nous permettre à nous de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans notre société, notamment les enjeux et perspectives de l'éducation inclusive.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de donner l'occasion d'échanger avec vous ce soir autour de la question de l'éducation inclusive. Alors, effectivement, les propos que je vais tenir ce soir vont moins s'attacher peut-être à présenter les grands traits, les glissements de perspective, que de pointer un certain nombre d'enjeux qui entourent ce qu'on appelle l'inclusion. Mais surtout aussi souligner les injonctions paradoxales auxquelles sont confrontés à l'heure actuelle les acteurs du secteur social et médico-social, tout comme ceux du secteur éducatif, et qui contribuent à faire de l'inclusion un imaginaire assez inimaginable, finalement. C'est-à-dire que ce qui est assez frappant, c'est d'observer à quel point les principes ou les mots utilisés pour qualifier l'inclusion ont du mal à s'agripper dans le quotidien, ont du mal à faire sens. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y ait un certain nombre de mirages auxquels sont confrontés les professionnels, mais aussi un certain nombre d'injonctions paradoxales qui sont liées à la manière dont on leur suggère de penser l'individualisation, la différenciation, l'accompagnement. Et c'est pour ça que, au regard de ces injonctions paradoxales, j'essaierai de discuter avec vous des petits pas de côté, des petits pas de côté qui consistent peut-être moins à mettre la personne au centre que le devenir de la personne, le devenir de la personne, pour voir un petit peu. Quels sont les glissements de perspective qui sont induits par ce que j'appelle une approche polycentrée. Alors, mes propos s'appuient sur un ensemble de données, de travaux que je mène à l'échelon international maintenant depuis une vingtaine d'années, puisque j'ai participé au programme Helios. Donc on est en 89, qui a contribué à ce que la question du handicap fasse partie du traité d'Amsterdam de 96. J'ai aussi participé à la révision de la classification internationale du handicap dans ce qu'ils appelaient la Task Force Environnement. J'ai collaboré ponctuellement avec l'ONU dans le cadre de la Convention des Nations Unies. Et j'ai travaillé avec l'OCDE et à l'heure actuelle avec l'Agence européenne à l'analyse des politiques inclusives. Donc, mes propos s'appuient sur un certain nombre d'analyses, d'observations que j'ai pu mener à l'échelon international. Il s'appuie aussi sur une analyse des circulaires parues entre 82 et 2011 relatives aux élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi des collaborations pratiques que j'ai menées avec des acteurs de l'institution scolaire, mais aussi des acteurs médico-sociaux, puisque j'ai participé où j'ai accompagné les premiers projets de création d'auxiliaires d'intégration scolaire. Hein, donc, on est fin des années 90. J'ai aussi l'occasion de travailler maintenant depuis une dizaine d'années avec des associations sur les petits pas de côté que l'on peut faire pour que cette notion d'inclusion, devienne, prenne sens, aussi bien pour les intéressés que pour les professionnels. Alors, je crois qu'un premier élément, me semble-t-il, je vous demanderai de m'indiquer. Je ne sais pas, pour qu'on ait le temps d'échanger, lorsque j'approcherai de la demi-heure, pour qu'on ait un temps d'échange. Si vous voulez, première chose, je crois, et qui me paraît assez révélatrice des injonctions paradoxales auxquelles sont confrontés les parents, les professionnels de l'institution scolaire, les professionnels du secteur social et médico-social, cette notion d'inclusion scolaire. Cette notion d'inclusion scolaire, si vous voulez, consiste à remplacer le terme d'intégration scolaire par celui d'inclusion scolaire, comme s'il suffisait de changer le mot pour que les pratiques, les orientations changent et fassent sens. Or, je crois que si la question de l'inclusion était au début des années 90, fin des années 80, une thématique tournée vers la scolarisation des élèves présentant des enfants présentant une déficience, à compter de la fin des années 90, cette notion d'inclusion, et ceci dans la plupart des pays de l'OCDE, est associée à des mutations conséquentes de l'institution scolaire et du secteur spécialisé. Parce que il n'y a pas de spécialisé sans ordinaire. Par-delà la question du handicap, la question de l'inclusion renvoie à ce que j'ai appelé dans un certain nombre de papiers l'avènement d'une école post-disciplinaire, ou d'institution post-disciplinaire, à qui l'on demande de concrétiser le droit de tout élève. Et ce qui est marquant, si vous voulez, quand on analyse, là, je suis en train de diriger un ouvrage qui va paraître l'année prochaine sur le lien entre accessibilité et la réinvention de l'école, si on se rend compte les réformes menées depuis la loi de 89, hein, justement ce qui est intéressant lorsqu'on analyse les circulaires paru entre 82 et 2011, c'est que la loi qui est structurante dans les discours portés sur l'école, sur la diversité, c'est la loi de 89. C'est pas la loi de 2005, c'est la loi de 89 passe d'une logique de lutte contre l'échec scolaire à une logique de la réussite de tous, ce qui est absolument pas la même chose. Ce qui fait que, si vous voulez, ce qui est particulièrement important à souligner, c'est que quand on parle d'inclusion scolaire, on oublie que ce qui se joue derrière la notion d'inclusion, c'est l'avènement ou la réinvention de l'école. la réinvention de l'école qui exige, si vous voulez, une remise en cause, un questionnement d'un certain nombre des principes nés de l'institution scolaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et à la naissance du secteur social et médico-social. L'école de tous, l'école pour tous, on la trouve déjà fin 19e, début 20e. Et la question qui se posait fin 19e, début 20e était exactement la même qu'à l'heure actuelle, c'est comment faire de l'école de tous une école pour tous, finalement. Et donc, ce qui se joue derrière l'inclusion, c'est vraiment une réinvention du système scolaire qui demande à l'institution scolaire de concrétiser les droits que l'on reconnaît aux individus. Ce qui n'est absolument pas la même chose, puisque on admet que le rôle de l'école n'est plus seulement d'instruire, mais que le rôle de l'école est d'armer les élèves pour leur permettre de se prémunir contre les vicissitudes de la vie. C'est-à-dire qu'on admet qu'à travers cette école pour tous, qui est une école de la réussite de chacun, que les élèves vont être à même de détenir les compétences requises pour faire face aux nouvelles exigences du marché du travail, etc. Et, bon, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais ça explique aussi, si vous voulez, la consécration de la notion de compétence à partir de la fin des années la fin des années 90 et effectivement ce qui explique aussi l'intérêt croissant que l'on accorde au score des élèves je pense que PISA en est un bel exemple. Et donc je crois qu'un des enjeux c'est d'aller par-delà la question d'une inclusion pour interroger la question de l'éducation inclusive. C'est-à-dire que l'enjeu fondamentalement pour moi, c'est pas de se satisfaire d'une inclusion, parce que l'inclusion finalement, elle peut se résumer à une exception mathématique. A est inclus dans B. Ce qui se joue entre A et B est une préoccupation seconde ou que l'on délègue aux acteurs de terrain. Et c'est important parce que, si vous voulez, on a peu de données dans la plupart des pays de l'OCDE sur les conditions de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Par exemple, vous avez un pays comme la Hollande qui n'a plus de données sur les élèves scolarisés en milieu ordinaire, mais c'est également le cas des Belges, parce qu'estimant que scolarisés, les enfants sont inclus, au détriment des conditions de scolarisation, etc. Donc, ce qui fait que la question de l'inclusion n'est absolument pas satisfaisante, et c'est pour ça que je pense que proposer que le titre porte sur l'éducation inclusive, parce que cela renvoie fondamentalement aux enjeux, me semble-t-il, qui entourent la mutation du système scolaire et la prise en compte des apprentissages, etc. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé des UPI aux ULIS, des unités pédagogiques d'intégration, puis unités pédagogiques d'inclusion, aux unités localisées d'inclusion scolaire, comme si le pédagogique se trouvait placé ailleurs. Et je crois que cette notion d'éducation inclusive consacre un passage qui est essentiel, me semble-t-il, parce que on est passé d'une logique du droit A à une logique du droit 2. Si vous voulez, lorsque l'on parle de droit dans les politiques inclusives, on ne parle pas du droit à l'éducation tel qu'il peut être codifié. On ne parle pas d'un droit collectif. On parle d'un droit individuel. Celui qui est reconnu aux individus et que l'on demande à l'institution scolaire, mais aussi aux établissements sociaux et médico-sociaux, de concrétiser. Quand la loi de 89 demande à l'école de mettre l'enfant au centre, et lorsque la loi de 2002 demande aux établissements spécialisés de mettre l'enfant au centre, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de transformer l'usager abstrait des textes en un usager concret. On admet que la personnalisation des pratiques, l'inscription du travail de l'enseignement dans des projets, etc., pour permettre à la personne d'expérimenter la condition citoyenne et d'expérimenter ses droits. Et c'est là que ce dont il est question, ce n'est pas seulement du droit à, mais du droit de. Et je crois que ce qui est extrêmement important dans ce lien qui est fait entre éducation inclusive et droit, c'est que, à partir du moment où l'on reconnaît une personne comme sujet du droit, dont la personne est porteuse, hein, je veux dire le droit du travail, quelque chose qui nous est reconnu, qui codifie, a priori, le droit de la sécurité sociale aussi, mais c'est des droits dont nous ne sommes pas porteurs. C'est des droits qui protègent a priori, et qui sont des droits collectifs. Or, là, ce dont il est question, quand on prend la Convention des Nations Unies, ce sont des droits individuels dont les personnes sont porteuses. Et qui leur sont... qui leur sont propres, d'une certaine manière. Donc, on admet, si vous voulez, que toute personne est responsable et raisonnable. Et c'est donc c'est ce qui me paraît extrêmement important, parce que cela revient à admettre que même une personne polyhandicapée, vu qu'elle est titulaire de droit, est dotée hein, de raison et à même de prendre des responsabilités. Ce qui revient à dire que fondamentalement, on remet en cause de manière assez marquée l'idée même qu'il puisse y avoir des inéducables. On admet que toute personne est responsable et raisonnable, et par là même, toute personne est éducable. Et il y a un papier qui va paraître prochainement dans Éducation de Société, où je montre que on a pu reconnaître la personne comme sujet de droit, parce qu'effectivement, un ensemble d'approches scientifiques ont substitué à la figure de l'incapable la figure de l'atypique. De l'atypique, c'est-à-dire que, à la différence de l'incapable, qui ne peut pas, et qui s'oppose à celui qui peut, la figure de l'atypique est quelqu'un qui peut. Et quelqu'un qui peut, ce qui revient à dire que finalement, là où préalablement la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers était corrélée à leur normalisation par l'intermédiaire du spécialisé, on est dans une logique où l'éducation inclusive renvoie aux stratégies d'accessibilisation de l'environnement scolaire. C'est-à-dire reconnaître tout élève comme étant un sujet de droit, hein, comme le fait l'article 24 de la Convention des Nations Unies, tout comme le fait la loi de 2013 qui reconnaît à tout élève ou tout enfant la capacité d'apprendre. C'est-à-dire, c'est une évolution majeure par rapport à l'article 1 de la loi de 89 ou par rapport à l'article 1 de la loi de 2005, la loi Fillon. D'ailleurs, on met vraiment l'accent sur le fait que tout élève est capable d'apprendre, et par là même, ce c'est autour de quoi se joue la réinvention de l'institution scolaire, c'est l'accessibilisation. L'accessibilisation des environnements scolaires par le biais des PAP, des PPRE, des PAI, des PPS, accessibilisation de l'environnement scolaire par le biais des plans réussite, etc., etc. Donc il y a un ensemble de mesures qui existent ayant vocation à accessibiliser l'environnement scolaire. Donc, mais toute la question, me semble-t-il, renvoie aussi au fait que quand on parle de droit, de quoi parle-t-on ? Et c'est ce titre-là, si vous voulez, que me paraît important de corréler la question du droit au fait que concrétiser les droits renvoie d'une part au prendre part. Au prendre part que permis par la scolarisation en milieu ordinaire, permis par l'accès aux droits. C'est-à-dire que ce qui se joue derrière l'égalité d'accès mise en avant par le législateur, ce n'est pas uniquement la participation sociale. C'est une idée qui est vieille comme le monde. Les possibilités données aux personnes de prendre part. Parce que, et c'est vrai que la scolarisation en milieu ordinaire renforce largement l'accès à l'emploi, renforce largement la possibilité de se faire des amis, renforce largement les possibilités d'inscription sociale, etc. Donc derrière l'accès, le prendre part, il y a la possibilité donnée aux personnes de revendiquer un statut, une identité, la possibilité d'être comme tout le monde et de faire comme tout le monde. Mais c'est pas parce que l'enfant accède à l'école que l'école sera source de reconnaissance sociale. J'ai mené un travail quand j'étais à l'OCDE sur les violences scolaires dans une dizaine de pays de l'OCDE, et les données recueillies à l'époque montraient que les élèves à besoins éducatifs particuliers étaient plus souvent confrontés aux violences scolaires que les autres élèves. On se rendait compte, on se rend compte si on prend l'enquête handicap santé ménage, que les élèves qui se disent handicapés, donc qui sont officiellement reconnus comme tels, je crois, sont 7 ou 8 fois plus nombreux à juger être discriminés à l'école. Donc on ne peut pas se satisfaire de prendre part. C'est pas parce que l'enfant va à l'école que l'école sera source de reconnaissance sociale. Et c'est tellement vrai, si vous voulez, que lorsqu'on analyse un petit peu l'évolution des profils des élèves scolarisés en milieu ordinaire, on se rend compte qu'il y a des basculements vers l'âge de 12 ans, vers le milieu spécialisé. Alors, c'est lié au fait que le primaire, le secondaire s'organisent autour de rationalités différentes, mais c'est aussi souvent lié au fait que pour les parents, les formes de servitude qu'on leur impose sont devenues insupportables ou difficiles à gérer, qu'à la limite, ils préfèrent que leur enfant soit scolarisé dans un milieu spécialisé plutôt que dans un milieu ordinaire, si celui-ci est source de violence. Bon, par exemple, vous avez un pays comme le Danemark où un certain nombre d'associations s'interrogent demande à ce que des établissements spécialisés soient recréés, quoi. Alors que les enfants au Danemark sont majoritairement scolarisés dans des classes spécialisées. Donc, on ne peut pas se satisfaire du prendre part. On ne peut pas se satisfaire du placement à l'école. Parce que l'école peut être source de violence symbolique. J'ai à l'esprit cet élève avec lequel je me suis entretenu, qui disait, oui, vouloir avoir envie d'aller à l'école avec les autres, mais qu'il était un peu gêné parce que le schéma corporel n'était pas le même. Et le deal qu'il avait fait avec ses parents, c'est qu'il acceptait d'aller à l'école ordinaire, à condition qu'il puisse passer ses vacances avec des élèves, des enfants présentant une déficience, pour pouvoir partager un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que, si on résume la question du droit à la question du placement, de fait, on oublie que l'école peut être aussi violente que le milieu spécialisé peut l'être. Et que l'ordinaire n'est pas forcément mieux que le spécialisé. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'on ne peut pas distinguer la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers du faire partie. C'est-à-dire que la question de fond, derrière les, alors, oui, concrétiser le droit, c'est l'égalité d'accès, mais aussi c'est l'égalité de traitement. Si on prend la définition juridique, l'égalité de traitement renvoie aux aménagements raisonnables. Aux aménagements raisonnables, mais on ne peut pas se satisfaire, si vous voulez, d'un raisonnement comme celui-ci, parce que les aménagements raisonnables, pour qui sont-ils raisonnables ? Dans nombre de pays, si vous voulez, on est dans une logique, là j'ai fait un truc sur le financement des politiques inclusives, où on a une idée relativement imprécise de la manière dont les soutiens alloués aux personnes leur permettent d'agir et d'être vus comme des élèves. C'est-à-dire, un des enjeux derrière la scolarisation et du droit, c'est de permettre à l'élève d'agir comme un élève, d'agir selon les caractéristiques qui spécifient le métier d'élève, parce que pouvoir agir comme un élève, c'est lui permettre d'être vu comme un élève. Ce qui revient à dire qu'un des enjeux derrière l'égalité de traitement, c'est de s'interroger sur la possibilité donnée à l'élève d'avoir la même communauté de sort que les autres élèves. En quoi sont-ils à même d'être vus comme des élèves et d'agir comme des élèves? Parce que le slogan qui veut que l'inclusion, c'est permettre à la personne d'être vue comme un élève d'abord, c'est un slogan qui oublie que, derrière la notion d'élève, il y a un ensemble d'exigences qui spécifient, comme le dit Pernoud, le métier d'élève. Et que si on ne s'interroge pas sur la manière dont la personne va pouvoir agir comme un élève et être vue comme un élève, on risque effectivement d'exposer les élèves aux formes informelles de disqualification scolaire. Par exemple, dans le travail que j'ai mené sur la transition juvénile, j'avais demandé aux enquêtés en quoi les soutiens, les aménagements dont ils bénéficiaient leur permettaient de faire les mêmes tâches que les autres élèves. Et il y a que, si mes souvenirs sont exacts, il y a que 28% des élèves qui disaient que les aménagements leur permettaient d'effectuer les mêmes tâches que les autres. Donc ça veut dire que finalement, un, on les soutenait pour les soutenir, mais sans vraiment s'interroger sur les possibilités qui leur étaient données d'agir comme un élève. J'ai posé une question qui consistait à leur demander en quoi les aménagements et les soutiens dont ils bénéficiaient leur permettaient de conjuguer déficience, les contraintes de la déficience et les impératifs de la scolarité. Ils étaient 26-27% à juger que les soutiens le leur permettaient. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique, si vous voulez, où l'égalité de traitement dont il est question se résume à la mobilisation de moyens, finalement. Et que, finalement, un des enjeux, c'est de s'interroger plus amplement sur les possibilités données à l'élève d'être vu légitime dans sa fonction. Parce que être vu légitime dans sa fonction, ça permet aussi de prendre en considération les dimensions liées à l'inscription sociale. Mais on ne peut pas uniquement, si vous voulez, se satisfaire d'un faire partie, parce qu'un des enjeux, c'est aussi de s'interroger sur la manière dont l'élève est à même d'agir sur son environnement. Quand je dis agir sur son environnement, ce qui spécifie l'inclusion, l'ambition inclusive par rapport à l'ambition intégrative, c'est de faire de l'élève un acteur du processus. Et un des enjeux, c'est vraiment de s'interroger sur la manière dont les soutiens, les aménagements au sein de l'établissement scolaire, mais aussi sur les formes d'accompagnement dont bénéficient les personnes, leur permettent de s'engager dans les processus, hein, d'être ces indigènes de l'organisation dont parle Bernie. Parce que, si vous voulez, c'est ce à travers quoi la personne va pouvoir dire « je suis peut-être je présente peut-être une déficience, mais je ne suis pas handicapé. Hein, » Je veux dire, me disaient pas mal de jeunes avec lesquels je me suis entretenu, et qui disaient « mais finalement, moi je ne suis pas handicapé, parce que titulaire d'un BEP ou titulaire d'un bac, de toute manière, je suis un survivant. » Et certains disaient même être un miraculé, et que finalement ils avaient démontré beaucoup plus de capacités que la moyenne des élèves, et que leur demander de dire qu'ils étaient handicapés, de se penser handicapés, ça faisait absolument pas sens. Hein. Donc ce qui montre bien qu'effectivement, à travers la manière dont on va penser les possibilités d'engagement des élèves, c'est aussi les placer en position de revendiquer, d'être vus autrement. Dernier élément qui caractérise, me semble-t-il, l'éducation inclusive, c'est l'égalité en termes de reconnaissance. En quoi, effectivement, permettons aux personnes de se penser soi-même comme un autre, comme dirait Rucker, c'est-à-dire différent comme les autres. Et ce qui est extrêmement intéressant d'observer, c'est que dans le travail que j'ai mené, là aussi, on se rend compte que le rapport à soi des élèves scolarisés en milieu ordinaire, il n'était pas tellement différent du rapport à soi des autres élèves. Hein, ce qui veut dire qu'effectivement, la scolarité n'est pas toujours source de reconnaissance sociale. Et surtout, ce qui est important, si vous voulez, c'est que l'égalité en termes de reconnaissance demande de s'interroger sur le sentiment d'exister de la personne, c'est-à-dire la possibilité qui lui est donnée d'accéder à des identités multiples, c'est-à-dire de se penser simultanément élève, copain, compagnon, compagne, etc., etc. C'est-à-dire, nous accédons à des identités multiples. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que les conditions de scolarisation permettent aux personnes d'accéder à ces identités multiples, parce que tout doit être programmé, tout doit être planifié, de par la logique de projet, etc. Et ce qui est extrêmement intéressant d'observer dans le travail que j'ai mené sur la transition juvénile, c'est que ces jeunes adultes étaient enfoncé dans une logique programmatique. Il fallait tout planifier, tout organiser, ce qui rendait particulièrement difficile de satisfaire une exigence d'adaptation. Donc je crois que, si vous voulez, le droit, quand on parle de l'école, quand on associe l'éducation inclusive à la concrétisation des droits, c'est pas un droit qui se satisfait du placement. C'est un droit qui exige que l'on s'interroge sur les possibilités données à l'élève d'agir et d'être vu comme un élève. C'est s'interroger sur les possibilités données à l'élève de s'engager dans le processus, d'être le co-constructeur des processus que l'on attend qu'il soit. Et c'est aussi, me semble-t-il, s'interroger sur les formes de reconnaissance qu'expérimente l'élève au contact d'autrui. Alors, il me semble qu'à l'heure actuelle, la concrétisation des droits tels que, effectivement, on peut l'analyser, se heurte, me semble-t-il, à un certain nombre d'injonctions paradoxales que j'impute personnellement à travers les analyses que j'ai menées à l'approche égocentrée, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 80, on demande, et c'est une des caractéristiques de la loi de 89, hein, de la loi de Jospin, c'est de mettre la personne au centre, et puis 89, c'est aussi la réforme des annexes 24, dont on parle très peu, et qui comprend, explicitement les principes de la loi de 2002 et de la loi de 2005. Donc en 89, il y a la loi Jospin, mais il y a aussi la réforme des annexes 24, qui invite les acteurs du secteur social et médico-social à mettre la personne au centre. Alors, si vous voulez, ce qui est un peu gênant quand on met la personne au centre, c'est que, finalement, on oppose, on distingue l'individu et l'environnement. Comme s'il y avait des individus sans environnement et des environnements sans individus. Dire que, ce qui se joue, c'est l'interaction entre un individu et son environnement, l'individu, il est inscrit dans un environnement. C'est un environnement social, c'est un environnement familial, c'est un environnement amical, mais l'individu n'existe pas indépendamment de son environnement. De même, j'ai personnellement du mal à envisager des environnements sans individus. Si on prend ce qui se joue dans la scolarisation au milieu ordinaire, ça met en jeu des AESH, ça met en jeu des enseignants, ça met en jeu des enseignants référents, ça met en jeu des chefs d'établissement, ça met en jeu des parents, ça met en jeu des élèves, ça met en jeu un ensemble d'individus. Et ce qui est problématique, me semble-t-il, dans l'approche égocentrée, c'est qu'en opposant l'individu à l'environnement, on oublie que ce qui va permettre la scolarisation des élèves à un besoin éducatif particulier, c'est la manière dont on va faire environnement, c'est-à-dire la manière dont on va créer les interdépendances à travers lesquelles, on va non pas conduire la personne de A vers B, mais on va faire B. Concrétiser le droit, c'est légitimer scolairement la personne. L'école est confrontée aux mêmes injonctions que les entreprises, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être d'excellence, d'être performante, d'arriver à 80% au bac, etc., tout en leur demandant d'être équitable. Et donc, ce qui revient à dire que finalement, les écoles ont du mal à admettre des enfants handicapés et que tout le travail d'accompagnement et tout ce qui se joue dans le PPS, etc., dans les faits, consiste à légitimer la présence scolaire de l'enfant. Le droit reconnu aux parents, c'est une prétention au droit, à charge à l'évaluation des besoins, à charge au projet personnalisé de scolarisation, de formaliser les éléments caractéristiques ou caractérisant la manière dont ce droit va se matérialiser. On peut revenir dessus tout à l'heure. La personne au centre admet, et d'ailleurs les textes disent clairement, que finalement, il n'y a que la personne qui a des besoins. À ancrer la concrétisation du droit dans une logique sacrificielle. Parce que il n'y a pas que la personne qui a des besoins. L'enseignant a des besoins. Les parents ont des besoins, les autres ont des besoins, etc. Et cette approche égocentrée consiste effectivement à demander aux acteurs de faire fi de leurs propres enjeux, de faire fi de leurs besoins, etc., pour concrétiser ceux de la personne. C'est une logique qui revient, à faire de la présence d'enfants présentant une déficience dans l'espace scolaire un risque majeur, puisque ça revient à dire enfant à problème, enseignant à problème. Hein, donc le handicap, finalement, peut être vu comme un risque majeur pour les acteurs de l'école. Surtout que, si vous voulez, ce qui se joue dans la scolarisation, enfin, la scolarisation d'élèves présentant une déficience, c'est que la remise en cause un élève qui déroge aux normes scolaires, il remet en cause les routines. Et la remise en cause de ces routines a un caractère assez invalidant. Un caractère invalidant parce que derrière les routines, il y a ce à travers quoi je pense, à travers quoi j'ai intériorisé ce qui est bon de faire, ce qui est juste de faire, ce qui est juste normal de faire. Je l'ai intériorisé à travers la formation, je l'ai intériorisé à travers mon expérience, etc., etc. Et une personne qui remet cela en cause est une personne qui m'interroge dans la représentation que je peux avoir de ma pratique. Et donc, finalement, mettre la personne au centre, inscrire la scolarisation dans une logique sacrificielle, finalement, ça prive les acteurs de l'école de penser d'autres routines. Ça prive les acteurs de l'école de la possibilité de penser ce que j'appellerais volontiers un autrement capable. La personne au centre, revient d'une certaine manière à réduire ce qui est de l'ordre de la différenciation pédagogique ou ce qui est de l'ordre de la personnalisation des pratiques à une prestation. À une prestation, Séraphin en est un bel exemple, hein. Mais pas uniquement Séraphin. Si on analyse par exemple la manière dont s'organisent l'évaluation, hein, l'évaluation diagnostique qui, dans les textes, est prévue comme étant ce à travers quoi on va soutenir les enseignants dans la pratique, etc. Dans la pratique, l'évaluation revient à résumer, l'accessibilisation de l'environnement scolaire à son une efficacité mesurée en termes de score, de performance, etc. Donc finalement, comme si la scolarisation était une prestation. Autre chose qui me paraît particulièrement gênant lorsqu'on met la personne au centre, c'est qu'on demande simultanément, on demande aux professionnels de penser simultanément la personne objet et sujet d'intervention. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire que si vous mettez la personne au centre, vous continuez ou persistez à fonder la légitimité de l'action dans les difficultés de la personne. Or, on peut pas simultanément penser une personne dans le besoin et une personne actrice de son projet. C'est quelque chose qui est fondamentalement difficile. Et dans le travail que j'ai mené sur le Gevasco et dont j'ai publié certains éléments dans un article qui est paru au mois de juillet dans la Nouvelle Revue, il est extrêmement intéressant d'observer que mettre l'approche au centre, la personne au centre, a conduit à finalement à transformer l'élève handicapé en un élève dans le besoin, hein, qui se singularise par son niveau de besoin et qui finalement et c'est ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que non seulement les professionnels du social et du médico-social ont du mal à décrire leurs pratiques. Parce que quand je leur demande de décrire comment ils personnalisent, ils disent oui, mais et après ils me parlent tout de suite de la personne. Je leur dis non, le problème c'est pas la personne, c'est comment vous faites, hein, quand vous dites que vous vous personnalisez, c'est quoi concrètement, etc. Et ils ont vraiment du mal, parce qu'effectivement ils font de la légitimité sur la difficulté de la personne. Et ce qui m'a frappé quand j'ai analysé les 2000 et quelques dossiers du Gevasco, c'est que le raisonnement en termes de besoins a conduit à ce que les équipes de suivi de scolarisation ou ceux qui remplissaient le Gevasco ne renseignent nullement ce qu'ils font. Ça, j'étais absolument fasciné. C'est-à-dire que finalement, toute l'ingéniosité que l'on trouvait dans dans les propos des acteurs, hein, lorsqu'on observait les ESS, etc., les petits pas de côté qu'ils faisaient pour arriver à trouver des solutions, etc., disparaissaient totalement. Hein, quand, enfin, je veux dire, l'enjeu, c'est de parler de la personne, de la difficulté de la personne, et non pas de parler de ce que l'on fait. Donc, ce qui fait que, finalement, la question de la personnalisation, la question de la différenciation pédagogique, en devient d'autant plus difficile, d'autant plus complexe, si vous voulez, parce que non seulement on n'a pas de données qui nous permettent de voir comment l'enfant a progressé, etc., mais en plus de ça, on nous prive de la possibilité de, de formaliser, d'expliciter les petits pas de côté que l'on fait au quotidien. Et par là même, on nous prive de la possibilité de penser d'autres routines. Autre chose, si vous voulez, c'est que l'approche égocentrée, elle rend cette exigence ou cet impératif ou cette injonction à la coopération assez impossible. Pourquoi ? Parce que en mettant la personne au centre, les différents acteurs fondent leur légitimité sur la difficulté de la personne. Et ce qui fait que, hein, quand j'ai analysé les stratégies de coopération entre les différents, les enseignants, les parents, les professionnels du secteur social et médico-social, c'était intéressant d'observer qu'ils étaient plus en train de lutter pour définir le vrai problème de l'élève plutôt que de réfléchir aux modalités permettant de penser la coopération. C'est-à-dire que chaque partie prenante a ses outils d'évaluation autour de sa rationalité et finalement... on discutait, il y avait plus une lutte qu'une logique. Et au point que, une fois, j'ai demandé à des structures pourquoi ils coopéraient avec une autre structure, et puis on m'a répondu, monsieur, votre question est stupide. On coopère parce qu'on doit coopérer, les textes le disent. Ah, voyons. Hein? Mais ce qui fait que finalement, l'approche égocentrée actuelle, si vous voulez, elle fait de la coopération ou du partenariat une fin en soi. Hein? Mais ce qui se joue derrière le partenariat, ce qui se joue la coopération, c'est-à-dire les formes d'interdépendance à partir desquelles on va pouvoir penser quelque chose qui est de l'ordre de la transition, quelque chose qui est de l'ordre du parcours, et quelque chose qui est difficilement possible. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que... avec mon collègue Jean-Jacques de Trot, quand on a analysé les pratiques, et quand j'analyse les pratiques avec des structures d'accompagnement, on se rend compte qu'un des enjeux, c'est peut-être de mettre le devenir de la personne au centre, et non pas la personne. Mettre le devenir de la personne au centre, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que, en mettant le devenir de la personne au centre, on pense la personne par définir ontologiquement capable, si vous voulez, parce que, au même titre que n'importe qui, la personne a un devenir. Ou plus exactement, comme n'importe qui, la personne est en devenir. Et donc, si la personne est en devenir, elle est en devenir au même titre que les autres. Et que par là même, c'est une manière extrêmement intéressante, me semble-t-il, de s'interroger sur les facteurs qui vont permettre à la personne d'être devenante, enfin, d'être, oui, de devenir. Et donc, penser, mettre le devenir de la personne au centre, c'est penser la personne ontologiquement capable, et de fait s'interroger sur les possibilités, les modalités d'accessibilisation de l'environnement scolaire, ou les modalités de d'accessibilisation des environnements pour construire la légitimité scolaire de la personne. Mettre le devenir de la personne au centre, c'est aussi admettre, si vous voulez, que le besoin renvoie moins à quelque chose qu'il convient de satisfaire qu'à un ensemble d'enjeux identitaires auxquels les uns et les autres qu'il convient de prendre en considération. Donc ce qui revient à prendre en considération les besoins des uns et des autres. Et il y a des structures d'accompagnement qui ont mobilisé cette approche de manière extrêmement concrète, et il est extrêmement intéressant de voir en quoi ce petit pas de côté a conduit à réfléchir, a conduit les uns et les autres à réfléchir à la manière dont on va prendre en considération les besoins des uns et des autres. Mettre le devenir de la personne au centre, comme le montre ce graphique, revient aussi à penser la personne et son entourage comme partie prenante du processus. Comme partie prenante du processus. Et donc, la pensée comme étant partie prenante du processus, c'est s'interroger sur les compétences, les savoirs, les connaissances requis par la personne pour que celle-ci puisse s'engager dans les récits. Et c'est pour ça, si vous voulez, que mettre le devenir de la personne au centre revient à construire les formes d'interdépendance à partir desquelles on va construire collectivement le sens de la scolarité. On va faire environnement. L'environnement n'existe pas. On va faire environnement, et l'accessibilisation de l'environnement scolaire, ou l'accessibilisation des environnements, revient fondamentalement à construire les conditions à partir desquelles l'élève va être scolairement légitime, les professionnels, les différents professionnels vont être légitimes dans leur rôle et dans leur mission. Et c'est à ce travers-là, à travers cela, si vous voulez, que mettre le devenir de la personne au centre revient à s'interroger non pas sur les conditions d'interaction entre un individu et un environnement, mais sur les formes d'interdépendance à partir desquelles on va pouvoir construire collectivement le sens de l'action menée, c'est-à-dire que on ne va pas uniquement se satisfaire d'une collaboration, mais on va être amené à penser quelque chose qui est de l'ordre de la coopération. Collaborer avec quelqu'un, c'est travailler avec. Coopérer avec quelqu'un, c'est agir conjointement avec la personne, agir conjointement en vue, si vous voulez, d'atteindre un objectif commun. Donc, cette approche polycentrée, si vous voulez, elle revient à distinguer trois dimensions. Trois dimensions qui reviennent, si vous voulez, à articuler ce qui est de l'ordre d'un avenir. J'ai un avenir, qui explicite les rêves, les attentes, etc. Avec un devenir. Je suis en devenir. Et je suis en devenir, c'est s'interroger sur les possibilités d'engagement, les possibilités données à la personne de prendre et d'assumer des responsabilités. Et ce qui fait que, si vous voulez, le projet, mettre le devenir de la personne au centre, c'est pas se focaliser sur un avenir. C'est s'interroger sur les possibilités données à la personne de prendre et d'assumer des responsabilités. Et ce qui fait que le projet, c'est ce à travers quoi on va construire les formes d'interdépendance nécessaires à ce que la personne soit à même d'agir conformément au métier d'élève, pour prendre cet exemple-là. Et, non, c'est pas ça... Mettre le devenir de la personne au centre, c'est s'interroger sur cinq verbes. Alors, il y a un papier qui va sortir. Permettre à la personne de prendre et d'assumer des responsabilités, c'est s'interroger sur la manière dont la personne va pouvoir s'affirmer. Je sais. Non, je dis, pardon. Je dis sur les connaissances dont dispose la personne. Sur la capacité d'action dont dispose la personne, sur la capacité donnée, enfin les ressources données à la personne pour qu'elle puisse s'adapter au contexte, et enfin pour prendre des responsabilités. Alors ces cinq verbes, je les ai pris de Ricoeur. et de son identité narrative, si vous voulez, hein, mettre le devenir de la personne au centre, c'est dans l'être. C'est en quoi permettons à la personne de prendre et d'assumer les responsabilités qui y sont liées à son rôle. Voilà, je vais arrêter là-dessus pour qu'on ait un petit temps d'échange. Et puis, alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ce dont nous avions convenu, mais je serai à tous les cas ravi de répondre à vos questions et à vos remarques. Merci en tous les cas. Oui, alors, peut-être en lien avec ce que vous dites, je crois que c'est pas uniquement que les professionnels ont des besoins. C'est que la légitimité des professionnels est radicale, est reconfigurée à travers, si vous voulez, ce que j'appelle ces institutions post-disciplinaires. C'est-à-dire que si on lit les textes, si on lit les circulaires, on ne demande plus à l'enseignant d'être un enseignant instructeur. On lui demande d'être un enseignant ressource. Un enseignant ressource qui trouve sa légitimité dans une pédagogie de l'invention, hein, centrée sur les besoins, etc., et dans la capacité à mobiliser l'élève. De même, si vous voulez, cette réorganisation de l'action publique autour des droits reconfigure la légitimité des professionnels du secteur social et médico-social autour du soutien au système. C'est-à-dire que là où l'ambition intégrative, si vous voulez, situer la légitimité du secteur social et médico-social dans la normalisation de la personne par l'intermédiaire du spécialisé, on demande maintenant aux spécialisés, si vous voulez, d'être en soutien des acteurs de l'école. Et ce que j'ai pu observer dans les pays où les principes revendiqués par l'éducation inclusive sont les plus proches, sont relativement mis en œuvre, c'est des pays où, si vous voulez, le spécialisé est une ressource pour les acteurs de l'école. Le spécialisé ne trouve plus sa légitimité dans le soutien aux élèves, mais dans le soutien Donc ça va par-delà les besoins, parce que ce qui revient à dire que, et c'est ce qui m'a frappé dans le travail que je mène avec les structures qui m'ont pris au mot, hein, parce que très concrètement, on avait sorti le papier avec Jean-Jacques Letron, et puis il y a des associations qui m'ont dit « chiche, on met en œuvre, mais le devenir c'est quoi, et comment on fait, etc. » Et ce qui est extrêmement intéressant à observer, c'est que cette approche polycentrée, hein, qui consiste à réfléchir à la manière dont on va collectivement construire le sens, hein, de la pratique dans un contexte où l'État ne le veut plus, hein, conduit à s'interroger non seulement à la légitimité de la personne, mais aussi à la légitimité des uns et des autres. Hein, quand vous définissez des objectifs, quand vous définissez les moyens, etc., vous faites bien plus. Hein, donc quand on visualise les ESS ou quand on mène des entretiens, on se rend compte que ce que vous faites, hein, lorsque vous discutez lors des réunions, etc., c'est définir qui fait quoi, où, comment et pourquoi. Et ce qui revient à dire que vous qualifiez les niveaux de complémentarité des uns et des autres. Et donc vous qualifiez votre légitimité. Ce qui fait que, oui, vous avez des besoins, mais c'est des besoins qui dépassent. Enfin, c'est quelque chose qui dépasse cette notion de besoin que l'on aurait, mais ça revient à dire que ce qui se joue aussi derrière l'approche polycentrée, c'est la manière dont vous allez pouvoir vous revendiquer légitime dans votre fonction, la manière dont vous allez pouvoir assumer votre rôle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, dans les pays où le spécialisé fonde sa légitimité sur la difficulté de la personne, il y a une tension extrêmement forte entre les acteurs de l'école qui demandent des soutiens pour être à même de différencier, pour être à même de prendre en considération la diversité scolaire, etc. Et d'un autre côté, des professionnels qui disent « oui, mais nous on est spécialisé en handicap ». Et c'est ce décalage-là, si vous voulez, que l'approche polycentrée permet de mettre en arrière-plan. Parce que ce qui revient à dire que ce dont vous discutez, c'est exactement de ces cinq verbes. Hein. Je m'affirme lors des réunions, je dispose de connaissances qui sont spécifiques, j'ai une capacité d'adaptation au contexte, je prends des responsabilités et j'ai des connaissances et capacité d'action. Et c'est ce qui m'a frappé dans cette formation, c'est que les premiers jours, ils disent « ouais, moi je suis l'éducateur, présente une déficience ». Et puis, deuxième jour, on dit « oui, mais moi aussi je suis confronté quand je suis obligé de travailler avec l'enseignant ». J'ai aussi fait ça dans des structures où il y avait des enseignants. Les enseignants « oui, moi aussi je suis confronté à un ensemble de questions, hein, sur la possibilité qui m'est donnée d'être légitime dans ce que je fais lorsque je suis obligé de collaborer dans le cours enseignement, etc. etc. » Donc ça va par-delà le besoin. Parce que ce qui se joue derrière, l'éducation inclusive. Et c'est pour ça que la notion d'éducation inclusive est importante, parce que la notion d'éducation renvoie au pourquoi de l'inclusivité, si vous voulez. Hein. C'est bien pour éduquer les personnes. Et cette éducation, elle suppose l'action conjointe d'une pluralité d'acteurs. Hein. Et ce n'est pas se satisfaire d'une acception mathématique, parce que c'est autour de ça que se joue aussi la réinvention des légitimités, la reconfiguration des légitimités.
Je ne sais pas si vous êtes incité aux questions, aux réactions.
je me regarde, et déjà j'interrogatif, je ne m'accompagne pas, je suis une école, j'ai cloué tout le monde, Non, personne. Il y en a 10% qui vont suivre, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et donc, mathématiquement, à un moment donné, il y a vraiment, je pense, de la part de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants, une grande, grande, grande solitude. C'est-à-dire que par rapport à une structure avec beaucoup d'intervenants et beaucoup de professionnels, une scolarité normale, je dirais, ça n'existe quasiment pas. Et pourtant,
oui, alors vous avez tout à fait, il y a différentes choses si vous voulez. Cette notion de besoin éducatif particulier me paraît importante parce que si vous voulez, cela revient à remettre en cause l'idée qu'il puisse y avoir un élève moyen. Et c'est important parce que si on prend les données de l'OCDE Thalys, on se rend compte qu'il y a un nombre extrêmement important d'enseignants de collège qui sont confrontés à une forte diversité dans les classes. Je crois qu'il y a 30 et quelques pourcents d'enseignants de collège qui travaillent dans des établissements qui ont plus de 10% d'élèves reconnus handicapés. Qu'il y a à peu près 35% des enseignants donc, qui travaillent dans des collèges, qu'il y a plus de 30% d'élèves migrants, quoi. Ils appellent ça migrants, etc. Et il y a une proportion de voisines qui travaillent dans des collèges avec des personnes d'origine modeste. C'est-à-dire que quand on parle de la diversité scolaire, c'est des personnes qui sont distantes des normes scolaires, d'une certaine manière. Et ce qui se joue derrière cette notion de besoin éducatif particulier renvoie au fait, si vous voulez, que il importe de s'interroger sur les conditions d'accessibilisation de l'environnement. Et c'est là qu'intervient la question de la solitude de l'enseignant. C'est-à-dire que les conditions d'accessibilisation de l'environnement scolaire, les possibilités de différenciation pédagogique vont largement dépendre des soutiens à l'école. Si vous voulez, j'ai mené une analyse sur les mutations du spécialisé et puis les financements. Et ce qui est extrêmement intéressant d'observer, si vous voulez, c'est que les rationalités qui animent ce qu'on appelle l'éducation inclusive sont tout à fait différentes selon la manière dont on soutient les acteurs. C'est-à-dire que les pays où, si vous voulez, le soutien, où l'on admet que le soutien à l'enfant va soutenir le système, sont des pays au sein desquels l'éducation inclusive la plus chaotique. C'est-à-dire où, effectivement, sa puissance symbolique est la moins forte. À l'inverse, les pays où, si vous voulez, l'éducation inclusive est corrélée à des appuis à l'établissement scolaire, aux municipalités, aux régions et aux enseignants, sont des pays où la question de l'éducation inclusive, comment dirais-je, est inscrite dans une capacitation des acteurs. Et c'est vraiment quelque chose qui manque en France et qui renvoie à ce que je vous disais, C'est-à-dire que, à la différence d'autres pays, si vous voulez, on a demandé rapidement à l'école de s'ouvrir à la diversité, etc., etc., sans, comment dirais-je, parallèlement, mais parce que ça relève du secteur social et médico-social, donc d'un autre ministère, sans avoir réfléchi à la reconfiguration des modalités de soutien. Et je crois que c'est une dimension... Par exemple, mais c'est là que je pense que s'interroger sur les formes d'interdépendance revient aussi à penser la coopération entre les enseignants et les acteurs des CESAD ou les AESH, etc., autour des formes de soutien. Je veux dire, quand on analyse le travail des CESAD, par exemple, on se rend compte qu'il ne se résume pas à l'accompagnement des élèves. Les professionnels qui travaillent dans les CESAD travaillent avec les enseignants, travaillent avec les parents, travaillent avec une pluralité d'acteurs. Et je crois que ce travail-là, il participe de la mise en compétence. Je crois qu'un des enjeux, c'est vraiment de prendre le projet, non pas comme un objectif, mais comme un rite. Un rite à travers lequel on va collectivement construire les possibilités d'action des uns et des autres. Et c'est quelque chose... Donc ce qui revient à dire qu'effectivement la solitude de l'enseignant, elle est bien réelle. Mais elle est d'autant plus forte, si vous voulez, qu'il ne trouve pas les ressources. Hein. Bon, la formation proposée aux enseignants, c'est celle des années 70. Hein. Bon, grosso modo... on est toujours dans les tuyaux de poing. D'autre part, les enseignants spécialisés, ils sont spécialisés dans une déficience. Donc, finalement, ils font leur légitimité sur la déficience de l'enfant et ils soutiennent les modalités de sous-traitance aux spécialisés. D'ailleurs, l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés en milieu ordinaire, c'est pas accompagné d'une baisse des personnes admises en milieu spécialisé, ou très faible, 4%. Et donc, un des enjeux, c'est vraiment de s'interroger sur l'apport des AESH. Et non pas uniquement pour la personne, mais pour l'enseignant. Je parle des AESH, mais c'est également vrai des professionnels des CESAD. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va permettre de penser, si vous voulez, et qui va inciter l'administration, parce que rien ne vient jamais du haut, je veux dire, c'est toujours venu du bas. Mais il faut donner aux administrations des grilles de lecture un peu différentes que celles qu'elles peuvent avoir à l'heure actuelle. Mais ça se joue à l'échelon très pratique. C'est-à-dire, les échanges que vous pouvez avoir avec les professionnels des CESAD, les échanges que vous pouvez avoir avec les parents, etc., c'est ce autour de quoi se jouent les conditions, collectivement le sens d'eux. Hein. Et réfléchir et demander aux professionnels du spécialisé d'être soutenus, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays. Hein. Et, bon, par exemple, très concrètement, si je prends un pays comme la Norvège, lorsqu'un enseignant a un enfant présentant une déficience dans sa classe, il a la possibilité d'avoir du soutien, s'il le désire, en lien avec cette déficience. L'AESH, ça ne va pas tenir. Prenez un pays comme Malte, où la quasi-totalité des enfants sont scolarisés en milieu ordinaire, il y a 92% du budget consacré à l'éducation inclusive qui va aux AESH, ou à l'équivalent. Il ne reste plus rien pour la formation des enseignants, il ne reste plus rien pour les pôles d'appui, etc. Donc c'est-à-dire que les AESH, à l'heure actuelle, sont peut-être importants, mais l'enjeu, c'est vraiment de penser la mise en compétence des enseignants. C'est l'autrement capable des enseignants. Parce que quand vous dites que 90% des élèves sont à besoin éducatif particulier, cela veut bien dire qu'au quotidien, vous faites un ensemble de pas de côté qui contredisent tous les travaux qui disent que les enseignants ne peuvent pas. Simplement, on ne vous donne pas la possibilité de formaliser cet autrement capable. Hein. Et on avait un séminaire, là, au mois de juillet, au CNAM, portant justement sur l'autrement capable de l'enseignant. On parle des élèves autrement capables, mais personnalisés. À partir du moment où on vous demande de différencier les pratiques, à partir du moment où on vous demande de prendre en considération la particularité des élèves, on vous demande d'être des pirates. C'est-à-dire d'être dans l'invention, dans l'innovation, de contourner les règles, de vous saisir pour les faire vivre autrement et différemment. Et c'est là qu'un des enjeux, c'est vraiment de réfléchir, notamment dans les stratégies de coopération, les dynamiques de coopération avec les acteurs du spécialisé, sur l'explicitation de cet autrement, sur cette lettre, pour qu'il puisse être formalisé et que d'autres routines puissent être pensées. Je crois que madame a une question.
Dans ce que vous dites sur. C'est intéressant de se déventurer sur l'idée de penser au devenir. Après, là, dans ce que vous dites, que finalement, on ne revient sur les effets de l'enseignant avec une. On va réfléchir à la formation, mais ça ne peut pas faire un spectacle non plus. On va réfléchir à l'école, parce que. Bon, on ne parle pas de la vocation du classe de France, du classe de 20. Travailler en coopération, ça demande du temps, ça demande de se rendre disponible en dehors de son présent en classe pour élaborer des projets individualisés. Donc, quand on a un élève à suivre pour lequel il peut être inventif, ça peut être possible. Après, je pense qu'actuellement, en Mayenne, il y a des enseignants qu'on met. J'avais bien l'idée au début des injonctions dans les paradoxales, c'est-à-dire que. On est tous des professionnels motivés et qui sont pour l'apprentissage de bien. Après, je pense qu'en Mayenne actuellement, il y a des gens qui sont mis dans des situations où ils sont dans l'incapacité de faire sans leur demande. Et qu'il n'y a pas de réflexion sur l'école en général et qu'on va en réfléchir sur le positionnement professionnel, sur. Et qu'on en rajoute,
et à un moment, là, c'est cool.
Je pense que pour plus de
collègues qu'on me pense, il y a des articles qui prennent l'eau. Oui, c'est pour ça que je parlais d'injonction paradoxale, si vous voulez. Parce que, d'un côté, il y a un ensemble de réformes qui sont entreprises depuis une trentaine d'années, qui reconfigurent de manière drastique le rôle et les missions de l'école. Et les rôles et les missions de l'enseignant, tout comme du chef d'établissement. Mais d'un autre côté, on ne vous donne pas les moyens de penser ces mutations et de réfléchir à d'autres routines. Et on ne vous donne pas les moyens, notamment, si vous voulez, parce que un, on est dans une acception mathématique de l'inclusion. Hein. Le fait qu'on parle d'inclusion scolaire me paraît absolument révélateur. Hein. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est qu'ils aillent à l'école. Après, ce qui se joue dans l'école, c'est l'affaire des établissements. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique des politiques inclusives françaises, hein, par rapport à d'autres pays. Alors, et d'autre part, on ne vous donne pas les moyens de penser la personne comme un élève. Si vous voulez, le GEVASCO transforme l'élève handicapé en un élève dans le besoin. Il a beaucoup de besoins, pas de besoins, un petit peu de besoins, passionnément des besoins. On pourrait prendre la marguerite. Hein, si vous voulez, on est dans une logique qui persiste à essentialiser la difficulté scolaire. et donc qui vous prive des moyens de penser la personne comme un élève. Et donc ce qui fait que de fait la différenciation pédagogique, elle est compliquée. Et elle est d'autant plus compliquée que lorsque des classes comprennent un nombre important d'élèves, la gestion des comportements ou la question de la gestion des comportements est plus marquée. Hein. Parce que ce qui est intéressant, par exemple, lorsque l'on regarde les données de Thalys, c'est pas tellement la taille de la classe qui est source d'inconfort pour les enseignants, c'est le fait que la taille de la classe augmente la probabilité ou le fait d'être confronté à des comportements dérogeant aux normes. Et donc renforce la part laissée à la gestion des comportements. Quoi, hein. Et là, pour le coup, je crois que c'est... Je crois qu'il n'y a que 20% des enseignants qui se disent à même, 25% des enseignants qui se disent à même de gérer les comportements difficiles, et les Français, les enseignants français sont parmi les moins nombreux à se juger à même de juger de répondre aux questions des comportements. Donc ce qui fait qu'effectivement, on vous demande de concrétiser des droits, hein, donc d'assurer la réussite de tout élève, sans vous donner les moyens de penser la personne comme un élève et sans vous donner les moyens de réfléchir ou de formaliser, d'expliciter les nouvelles routines que vous créez. Et c'est ce qui fait que la barque est effectivement remplie. Hein, mais la barque est d'autant plus remplie que vous n'avez pas les soutiens. Je veux dire, dans un certain nombre de pays, l'inspection inspecte de moins en moins et est de plus en plus tournée vers la mise en compétence. Donc, ce qui fait qu'effectivement, la logique socio-éducative qui prévaut en France rend les choses particulièrement complexes. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai tenu ce soir à ne pas brosser ou avoir une vue d'hélicoptère hein, sur les enjeux, les mutations, etc., pour être dans quelque chose, peut-être, où l'on peut discuter des dimensions plus pratico-pratiques, parce qu'à partir, je veux dire, si vous êtes dans une logique où vous mettez la personne au centre, hein, l'élève au centre, vous ne pouvez pas le penser comme un élève. Vous ne pouvez pas le penser comme un élève, vous ne pouvez pas le penser comme étant partie prenante du processus. Et c'est là que mettre le devenir de l'élève au centre de préoccupation, c'est penser l'élève en développement. Hein, c'est une perspective développementale qui admet que l'élève est en devenir au même titre que n'importe qui, et par là même, c'est la manière dont on va construire les conditions d'accessibilisation de l'environnement qui est essentielle. Et de fait, si vous voulez, la manière dont on pense le soutien aux acteurs change radicalement. Hein, parce que si vous mettez le devenir de la personne au centre et sur la manière dont on va pouvoir faire environnement, le soutien aux enseignants, le soutien aux acteurs est absolument important. Hein. Si vous regardez les flèches, hein, alors je suis pas bon. Hein, et si on m'a donné la chaire accessibilité, c'est parce que si quelque chose marche avec moi, ça marche pour ce moment avec la quasi-totalité de la population. Mais si vous voulez, hein, c'est vraiment le devenir, c'est quelque chose que l'on construit collectivement à travers le projet. Les acteurs se soutiennent mutuellement à travers la définition des rôles, des compétences, etc. Et finalement, vous le faites. Je veux dire, quand on analyse très concrètement, hein, je veux dire, quand on a observé les ESS, lorsque l'on a analysé les entretiens qu'on a menés en complément des observations d'ESS, etc., on se rend compte que vous le faites. Mais simplement, vous ne le formalisez pas. Vous ne formalisez pas. ce autour de quoi, enfin, les conventions que vous vous définissez pour que la chose soit possible. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas vous appuyer dessus pour penser d'autres routines. Et penser finalement aussi le travail qui est réalisé pour que des choses se concrétisent.
D'autres réactions, d'autres questions? Il est 22h, on ne va pas tarder à conclure cette soirée, mais si quelqu'un veut encore voilà, intervenir, il est invité. Il y a un manque de soutien, que dans les établissements médico-sociaux, je pense qu'il y a aussi des fois des difficultés, etc. Comment est pensé cet accueil des élèves dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des organisations, des formations professionnelles qui permettent justement de travailler plus autour du devenir de la personne?
Si vous voulez, il n'y a pas des pays qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Mais les rationalités dans lesquelles, ou les configurations dans lesquelles l'ambition inclusive sont inscrites varient. Vous avez des pays, si vous voulez, où l'évaluation des besoins ne se centre pas sur les besoins de l'enfant, mais c'est les besoins, c'est l'évaluation des obstacles à l'apprentissage. Donc ce qui revient à inclure les besoins de soutien des enseignants, les besoins ou les compétences requises par les chefs d'établissement, etc. Donc, on n'évalue pas la même chose. En France, on évalue les besoins des personnes selon registre. Quand on parle du modèle médical par rapport au modèle social, c'est une stupidité immonde, parce que le modèle médical était un modèle social dans les années 30. Et que maintenant c'est un modèle médical parce que c'était la Sécu qui permettait de créer, si vous voulez, des espaces d'éducation pour les élèves dont l'école ne voulait pas, mais le modèle médical était un modèle social. Et le modèle social à l'heure actuelle est un modèle médical en France, dans la mesure où effectivement on est toujours dans une essentialisation de la difficulté. Là où d'autres pays, si vous voulez, n'aborde pas la difficulté scolaire à l'aune d'une déficience, mais à l'aune d'un besoin éducatif particulier auquel le système scolaire doit répondre. Et si on prend cette perspective-là, cela veut dire que on s'interroge sur les possibilités données aux acteurs de l'école d'accessibiliser l'environnement scolaire. Donc ce qui fait que, par exemple, les approches du handicap ne sont absolument pas les mêmes. Vous avez très peu, si je prends par exemple un pays comme la Suède, vous avez 1% d'élèves qui ont un PPS. En France, il y en a 3 fois plus. Mais vous prenez un pays comme la Lituanie, il y en a 18 fois plus. Donc ça veut dire qu'un pays comme la Suède, qui a pris une approche environnementale, qui s'intéresse aux barrières aux apprentissages, et qui évalue les barrières aux apprentissages, etc., est un pays où les enseignants ne ressentent pas le besoin de sous-traiter au social et au médico-social. Mais en même temps, le social et le médico-social n'existent plus puisque le spécialisé est ramené à l'éducatif. C'est important, si vous voulez, parce que les approches du handicap ne sont pas les mêmes. Les approches du handicap ou de la difficulté scolaire dans le secteur social et médico-social, ou lorsque le spécialisé est rattaché aux affaires sociales et à la santé, c'est une exception médicale, de fait. Alors que c'est raccroché au ministère de l'Éducation, c'est une exception éducative. Donc ce qui fait que le spécialisé et l'ordinaire peuvent être dans une logique de co-enseignement. Mais ce qui fait aussi que les professionnels du spécialisé ne sont pas les mêmes. En France, si vous prenez les enquêtes ESS, la quasi-totalité, ils ne comptent même plus les enseignants qui travaillent dans les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est que des personnels médicaux, paramédicaux, socio-éducatifs, etc. Donc ce qui fait qu'on demande à des acteurs dont l'identité professionnelle s'est instituée de manière antagoniste, de coopérer ensemble. Donc, ce qui fait que dans un certain nombre de pays, si vous voulez, ça basculait vers l'éducatif. Et donc, c'était des pédagogues sociaux, etc. Les mutations du spécialisé ont contribué à ce que le spécialisé soit une ressource pour le système. C'est-à-dire, on ne va pas former des enseignants spécialisés dans un type de déficience. On ne va pas former des spécialistes en autisme, etc. On va former des spécialistes dans l'accessibilisation. Et l'accessibilité, je parle bien d'accessibilisation, c'est-à-dire sur à travers quoi on va permettre aux uns et aux autres se sentir légitimes dans le travail mené. Et ce qui fait aussi, si vous voulez, que là où ce qui est extrêmement intéressant, c'est pour ça que la réunion que j'avais cet après-midi autour d'un projet territorial m'intéressait. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi que l'éducation inclusive est inscrite dans une logique territoriale. C'est une logique territoriale, c'est-à-dire qui consiste à créer des synergies avec, au sein du territoire, entre les différents acteurs. Et c'est la complémentarité de l'action des différents des acteurs au sein d'un territoire qui donne cohérence à la chose. Si on soutient uniquement les établissements risquent d'être démunis parce que les municipalités ne vont pas suivre, les départements ne vont pas suivre ou les régions ne vont pas suivre. Donc on ne peut pas soutenir uniquement l'élève, on ne peut pas soutenir uniquement l'établissement parce que si on soutient uniquement l'établissement, le chef d'établissement, il ne peut pas tout, surtout du fait que la scolarisation au milieu ordinaire mobilise une pluralité d'acteurs. Donc c'est vraiment l'action à l'échelon d'un territoire. Et j'ai pu voir, il y a quelques années, quand j'ai accompagné un projet sur le territoire de Laval, que vous êtes un territoire au sein duquel la coopération est assez vivante par rapport à d'autres. Mais en même temps, je crois que là où il y a un enjeu important, c'est d'avoir à l'esprit que ce qui se joue derrière l'éducation inclusive, c'est vraiment une réinvention des institutions qui dépasse largement la question du handicap. Et que la manière dont vous allez vous saisir des principes, ou la manière dont les professionnels se saisissent des principes de l'éducation inclusive, vont conditionner les nouvelles formes de légitimité qu'ils vont pouvoir revendiquer. C'est-à-dire, fonder sa légitimité sur la déficience de la personne ne fait pas sens dans un contexte où l'on considère toute personne capable. Et on la reconnaît comme un sujet de droit et on demande aux acteurs de l'école, tout comme aux acteurs du secteur social et médico-social, de concrétiser des droits. Donc vraiment, ce qui se joue derrière la manière dont les professionnels au sein de territoires se saisissent de la question de l'éducation inclusive, c'est la réinvention de nouvelles formes de légitimité. Et c'est ce qui s'est joué dans d'autres pays, si vous voulez.
Bien. Jamais évident de parler.
Oui, je crois qu'un des enjeux, c'est de s'intéresser à l'innovation ordinaire. Et je tenais à vous remercier d'avoir été aussi patient et d'avoir tenu jusqu'à une heure aussi indue. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.
Merci à vous tous.
J'entendais la salle s'agiter là. Ouais.